mais il y a le ticket.
L'aventure du product management racontée par celles et ceux qui la vivent. Voici notre promesse avec ce podcast qui a pour objectif de t'inspirer et te faire progresser.
Dans chaque épisode, nous explorons une histoire concrète racontée par les product managers qui l'ont vécue, comme si tu étais à leur côté dans les coulisses. Je suis Kevin, journaliste économique.
Je suis Tanguy, product manager.
Bienvenue dans Epic, le podcast aventureux du product management.
Produit par le ticket.
Allez, c'est parti pour le premier épisode du podcast du ticket. Petit frisson, salut Tanguy.
Et salut Kevin.
Salut Pauline.
Salut les gars.
Merci d'avoir accepté d'être notre premier invité, d'ouvrir le bal de ce podcast qui s'appelle Epic. Donc, les gens du produit auront compris la référence et les liens avec le ticket. Et les autres vont peut-être penser à aventure, à histoire. Et c'est très bien aussi. Alors, petite présentation rapide. Pauline, ça fait une dizaine d'années, toi, que tu bosses dans le produit. Tu viens d'Orléans. Tu as fait des études d'ingé, tu as ensuite bossé un peu plus de 4 ans aux États-Unis, à San Francisco, où tu as appris le métier de product manager. Puis tu es rentré en France en 2016, où tu as été head of product à Balinéa. Puis depuis 2018, tu as été la première product manager de PlayPlay. Et alors, PlayPlay en deux mots, c'est un outil de montage de vidéos en ligne pour les entreprises. C'est plus de 1500 clients. Une levée de fonds en février dernier de plus de 55 millions de dollars. Et tu n'es plus seul au produit aujourd'hui, puisque à l'heure où l'on se parle, tu es responsable d'une équipe de 15 personnes. Tu es la VP Product de la boîte. Et j'ajoute, pour finir la présentation, que tu fais partie de l'équipe de la Product Conf. Et aujourd'hui, tu vas nous raconter dans les coulisses de PlayPlay l'aventure d'une grosse migration technique. La migration technique, c'est pas le sujet le plus funky du monde, d'autant que c'est bien souvent invisible aux yeux des utilisateurs. Et pourtant, chez PlayPlay, vous avez vécu une aventure assez dingue en la matière. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as accepté de parler de migration technique ?
Parce que c'est le sujet le plus sexy dans le produit. Non, parce que c'est un sujet, en fait, je pense que tous les product managers rencontrent dans leur carrière, qui peut faire un peu peur. Il y a beaucoup d'histoires de migration technique douloureuses, voire ratées. Et nous, ça a été une épopée de 2 ans et demi qui s'est bien terminée. Et je pense que c'est intéressant de la partager avec la communauté.
Super. Allez, on est parti pour le chapitre 1. Alors Pauline, l'histoire, elle commence quand déjà ?
Elle commence à la création de PlayPlay en 2017, puisque PlayPlay, on est un outil de création de vidéos. Et en fait, on utilise After Effects depuis le début de notre histoire pour générer des vidéos. Ça, c'est parce que notre cofondateur, Aurélien, c'est un motion designer qui est un pro de After Effects. Et donc, quand il crée PlayPlay avec Thibaut en 2017, il se base sur la technologie After Effects.
After Effects, c'est un outil, on peut rappeler, pour faire des vidéos.
C'est un outil de la suite Adobe, ouais. Qui est utilisé par les professionnels, motion designer, monteur vidéo. Et en fait, dès le début, ils savent que cette solution After Effects, c'est pas la plus pérenne, mais c'est comme ça qu'ils attaquent PlayPlay. C'est comme ça qu'ils lèvent la première série de seed en 2018. Et en fait, la question de comment est-ce qu'on sort d'After Effects, elle existe depuis le premier jour de PlayPlay. Donc c'est un peu le chapitre zéro de cette aventure. En fin 2019, on commence à avoir 10-15 personnes à l'équipe tech et produit. Et en fait, le déclenchement de cette aventure, c'est qu'on est contacté par deux entrepreneurs bordelais qui ont créé une solution un peu équivalente à la nôtre, mais en utilisant une autre technologie, GSAP. Et en fait, ils veulent qu'on les rachète. Donc ils nous contactent, ils n'ont pas trouvé leur product market fit et ils veulent qu'on les rachète. Nous, on se dit tout de suite qu'on ne veut pas les racheter, mais par contre, que s'ils ont réussi à faire du rendu vidéo avec une autre technologie que After Effects, ça nous intéresse. Et l'aventure, elle commence en fait quand on les rencontre en décembre 2019. L'équipe technique en fait s'enferme 48 heures avec eux dans une salle pour essayer de réfléchir à qu'est-ce que pourrait être PlayPlay en dehors d'After Effects.
Pourquoi vous voulez sortir d'After Effects du coup à ce moment-là ?
En fait, After Effects, c'est le cœur de notre réacteur, c'est le cœur de notre produit, de notre valeur, et en fait, il appartient à quelqu'un d'autre, il appartient à Adobe. Donc c'est quand même un risque énorme sur la pérennité de notre business et de notre produit. Donc ça, je dirais que c'est le truc le plus important. La deuxième chose, c'est que c'est pas scalable. La façon dont on fait notre rendu vidéo, on a fait des fermes de rendu dans le cloud, etc. C'est pas scalable, étant donné l'ambition qu'on a avec PlayPlay. Et donc, on sait très bien que de toute manière, c'est un peu une bombe à retardement de garder After Effects.
Et du coup, en termes d'expérience pour les utilisateurs, vous vous dites que ça va changer quoi si vous sortez d'After Effects ?
Alors, en fait, avec After Effects, on avait deux limitations. La première, elle était en termes de performance. C'est-à-dire qu'on avait des temps de génération de vidéos. Donc, en fait, nos utilisateurs, ils passent un temps à monter les vidéos. Et après, ils appuient sur un bouton et nous, il faut qu'on génère la vidéo. Les temps de génération étaient assez longs. Et incompressible, parce que c'était une technologie qui dépendait de quelqu'un d'autre. Et donc, nos utilisateurs devaient attendre plusieurs minutes pour récupérer leur vidéo. Donc, on avait un enjeu de performance. Le deuxième enjeu, c'était un enjeu assez fonctionnel, en fait, parce qu'il y avait plein de choses qu'on avait envie de faire qui étaient très compliquées, voire impossibles avec After Effects. Et des choses assez basiques, finalement, comme changer de police de caractère ou gérer la taille de ces textes. Et donc, il y avait aussi des grosses frictions fonctionnelles qui, de toute manière, allaient bloquer à court terme l'évolution du produit.
Revenons à votre rencontre avec ces entrepreneurs bordelais. Vous les rencontrez, ils vous parlent d'une super techno. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous voyez comme possibilité pour vous ?
À ce moment-là, on est en mode, ok, c'est le moment, on y va. On attendait un peu une impulsion. Et donc Thibaut, notre fondateur, Alexandre, notre premier CTO, Aurélien, qui est en charge de la partie du coup Motion et qui est co-fondateur, on se dit, c'est parti, on y va. Donc l'objectif, c'était de poser une architecture technique en utilisant GSAP. Et ensuite, de repartir avec nos équipes et d'essayer de poser les premières briques d'un POC et d'avancer sur ce sujet.
Alors là, tu viens de dire un mot GSAP. Est-ce que tu peux, pour les non-initiés, nous expliquer ce que c'est ?
C'est une technologie qui permet de faire du rendu vidéo et de l'animation directement dans le navigateur.
Okay.
Donc c'est un langage.
C'est ce que les Bordelais avaient développé.
Ouais, c'est un langage web qui permet de faire de l'animation et du rendu vidéo. Et
du coup, GSAP, vous aviez déjà vu ce que ça pouvait donner pour les utilisateurs au moment où vous commencez. Vous êtes rassurés ?
Oui, on est rassurés. Le choix d'After Effects, c'était le choix parce que c'était la technologie que notre cofondateur savait utiliser, mais c'est aussi parce qu'on avait une exigence en termes de qualité de rendu motion qui était très forte. Depuis le début de PlayPlay, on a voulu rendre des vidéos de qualité agence. Et la grande peur qu'on avait en passant sur d'autres technologies, c'était qu'on perde cette qualité de motion design. Et en fait, ce qu'on a vu dans les vidéos qu'avaient fait ces entrepreneurs, c'est qu'il y avait la très bonne qualité. Et ça nous a beaucoup rassurés sur cette peur, cette crainte qu'on avait. Donc on s'est dit, ok, il y a des gens qui ont réussi à le faire. Ok, il n'y a pas de compromis à faire sur la qualité de nos vidéos. Donc maintenant, on se retrousse les manches et on y va.
Et c'est là qu'on rentre dans le deuxième chapitre.
Donc là, on arrive début 2020 et on décide de lancer le projet. On se dit, c'est bon, on y va, on va mettre des ressources dessus. Et là, la question, c'est un peu la stratégie de cette migration. Parce que moi, j'ai déjà fait plusieurs migrations. Alexandre, notre CTO, il a déjà fait plusieurs migrations. Et on sait qu'on n'y va pas en mode YOLO. Et donc, ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, il ne faut pas qu'on mette notre produit cœur à risque. Aujourd'hui, enfin en 2020, on a déjà des centaines d'utilisateurs. On a un business qui tourne, on a levé des fonds. Donc, il ne faut pas qu'on entame cette migration sur notre produit cœur. Et l'idée qu'on a, c'est du coup de lancer un produit annexe, avoir un petit poisson pilote, pour tester cette nouvelle technologie. Donc là, on se met dans une salle avec le codir et on brainstorm sur le produit qui sera notre poisson pilote. À l'époque, ça allait assez bien avec notre vision qui était de dire qu'on voulait lancer différents produits. Et donc, on a trois candidats. Un produit pour faire des vidéos de podcast, un produit pour spécialisé sur les stories Instagram et un produit spécialisé sur la partie interview. On choisit le podcast parce que on imagine que ça sera le plus simple d'un point de vue produit et fonctionnel, donc on ne veut pas multiplier les risques. Et parce qu'à l'époque, le podcast, c'est un truc qui commence un peu à exploser et donc on se dit, on va surfer sur la vague des podcasts et on va être super tendance. Donc en fait, on attaque cette migration en disant, on va tester cette technologie sur un petit produit annexe qui s'appellera du coup PlayPlay Podcast. C'est-à-dire un outil pour créer des vidéos de teasers de podcasts ou pour créer des vidéos d'extraits de podcasts. Et on part comme ça, on met deux... Donc à l'époque, on a 15 personnes à la tech et au produit. Et on met une squad vraiment R&D. Donc ça, c'est la roadmap Q2 2020. Il y a une équipe qui s'appelle Podcast. Et leur objectif, j'ai regardé les présentations de l'époque, on avait dit en juin 2020, on a des utilisateurs en prod qui tournent sur le produit. Bien entendu, ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, en fait, on va dire deuxième et troisième trimestre 2020, on est en train d'essayer de refaire ce qu'on a fait avec After Effects sur GSAP. En fait, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'on ne change pas tout notre produit. Dans notre stack technique, en fait, moi, j'appelle ça des couches. On a la couche front-end, qu'on ne change pas. On a la couche back-end et on a la couche de rendu vidéo. Donc, on est obligé de refaire toute la couche de rendu vidéo et d'adapter beaucoup notre couche back-end qui communique avec la couche de rendu vidéo. Donc, d'un point de vue produit, on n'est pas vraiment challengé parce qu'on garde l'expérience UX front-end qu'on a déjà sur notre cœur produit. On duplique en fait notre page d'édition de vidéo avec une nouvelle URL et c'est toute la partie back-end des rendus vidéo qui est en train d'être reconstruite.
Pourquoi est-ce que... Enfin, tu disais que c'était prévu pour Q2. Finalement, bon, ça décale un petit peu. Qu'est-ce qui justifie justement ce retard ou en tout cas ce
décalage ?
Ouais, ce décalage.
Bah, en fait, ce qu'on fait, c'est quelque chose de très innovant. Il n'y a pas d'autres boîtes en fait qui l'ont fait. Donc, on est vraiment en train d'inventer à ce moment-là une façon de faire du rendu vidéo avec des technos comme celle-ci. Il faut savoir que ce qu'avaient fait les entrepreneurs bordelais, ils l'avaient fait à toute petite échelle par rapport à ce que nous, on est en train de faire. Et donc, toutes les semaines ou tous les sprints, en fait, nos devs découvrent des choses. Et c'est vrai que là, c'est un peu le mindset qu'il faut avoir, même au produit. C'est-à-dire, il ne faut pas être pressé. Il faut les laisser travailler. Nous, comme on n'avait mis qu'une seule équipe sur les deux sur ce sujet-là, on continuait à avancer sur d'autres aspects du produit avec l'autre équipe. Et on les a laissés assez autonomes sans leur mettre la pression. Et ça, je pense que c'est assez important. Finalement, les premiers utilisateurs qu'on lance sur ce produit Poisson Pilote Podcast, ils n'arrivent pas en juin, ils arrivent septembre-octobre 2020. Donc on a décalé, mais on arrive quand même à sortir un truc. On a une volonté de mettre des utilisateurs assez tôt. Donc on avait proposé à certains de nos clients d'utiliser ça, parce qu'en fait, ils savaient utiliser PlayPlay. On avait des clients qui faisaient des podcasts à l'époque, et donc on les amène avec nous dans ce projet et ils testent la première version en bêta.
Et du coup, avant qu'on attaque sur la suite de l'histoire, on a envie de savoir ce qui s'est passé. Pendant ces quelques mois, du coup, ou avant que l'équipe sorte la première version de PlayPlay Podcast, comment l'équipe produit travaille ? Est-ce que c'est l'équipe de développement travaille en vase clos ? Est-ce qu'il y a quand même une équipe produit qui travaille avec eux pour les accompagner ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu te rappelles ?
C'est quand même un projet très R&D tech, donc ils sont assez autonomes sur leur roadmap. Après, malgré tout, pour lancer podcast, on avait besoin d'ajouter quelques fonctionnalités autour de l'audio qu'on n'avait pas dans notre produit cœur. Et donc, on est quand même intervenu pour faire en sorte que l'expérience globale PlayPlay et l'intégration du produit podcast dans l'expérience PlayPlay soient cohérentes. Donc il y a effectivement une product manager qui travaille dans cette équipe, mais c'est une équipe qui reste quand même avec une roadmap très tech. Et nous, on est juste en fait là pour garantir que l'expérience dans ce produit, elle sera quand même top et qu'elle s'intégrera bien avec le reste du produit en fait.
Du coup, au mois de septembre, vous lancez le PlayPlay Podcast. Donc, et là, qu'est-ce qui se passe ?
Donc en mois de septembre 2020, on lance PlayPlay Podcast sur GSAP, cette fameuse technologie. On est très content de la qualité du rendu, surtout qu'on s'était mis des gros challenges en termes d'animation, avec des effets de wave. Donc on est allé très très loin dans le motion design de ces vidéos, et ça nous plaît. Par contre, on se rend compte, genre 2 semaines après que les utilisateurs commencent à utiliser, que ça va pas du tout tenir, et qu'on s'est trompé de techno.
Quand tu dis ça va pas du tout tenir, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
En fait... On ne le savait pas, mais podcast, c'était un excellent choix parce que les vidéos de podcast, elles sont en fait assez longues. On découvre qu'il y a des utilisateurs qui veulent mettre des épisodes de 40 minutes en vidéo et donc qui veulent générer des vidéos de 40 minutes et qui veulent sous-titrer des vidéos de 40 minutes, ce qui fait en fait une complexité chez nous à gérer très importante. Normalement, un play-play, ça fait 1 minute, 2 minutes max. Et là, on se retrouve à devoir générer des vidéos de 40 minutes. Et en fait, bon, les navigateurs prennent feu, quoi, globalement. Et donc, nos premiers utilisateurs qui essayent de pousser un petit peu l'utilisation de PlayPlay Podcast nous disent que ça fonctionne pas, quoi.
Et là, le sentiment dans la boîte, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes ?
Alors, sachant que ça fait, excuse-moi, 8 mois que vous travaillez dessus désormais ?
Ça fait 8 mois qu'on est sur ce projet. Et en fait, ça s'est très bien passé. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on avait recruté des personnes entre-temps qui, en fait, apportent la solution qui est donc WebGL, qui est cette techno sur laquelle on est aujourd'hui. Et donc, en fait, on a déjà les compétences en interne qui nous disent, bon, nous, on croyait, enfin, GSAP, on l'a testé. Nous, on pense, en fait, maintenant, on s'est renseigné, on a appris ces quelques derniers mois et on pense que c'est WebGL. Donc, du coup, t'es pas dans une impasse en mode ça marche pas, mais faut repartir de zéro. C'est ça marche pas. Mais en fait, on a déjà des pistes sur ce qu'il faut faire après. Après 8 mois, on a appris énormément de choses. Et c'est pas parce que GSAP, c'est pas la bonne techno, qu'il faut tout jeter. Parce qu'il y a plein de choses qu'on avait faites, qu'on va garder, même avec cette nouvelle techno. Donc effectivement, c'est une déception. Mais encore une fois, on est sur un produit poisson pilote que pas grand monde utilise. Donc on n'a pas du tout menacé notre business. Nos clients restent très heureux sur notre produit cœur. On a appris plein de choses. On a quand même fait un pas de géant dans cette épopée de migration. Et en fait, on a la solution. Et là, on est vraiment confiant dans cette solution.
Est-ce que tu peux nous dire comment est arrivée cette techno WebGL ? Du coup, on a GSAP, maintenant c'est WebGL qui semble tenir la corde. Qu'est-ce qui s'est... Tu parles de nouveaux développeurs qui sont arrivés, qui ont apporté cette compétence-là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà, comment vous l'avez intégré dans votre mindset tech ?
En fait, c'est vraiment les talents qu'on a recrutés, notamment une personne, Maxime, qui nous rejoint en cours de projet GSAP, qui lui vient vraiment du monde de l'animation. Et donc, il se met à 200% dans le projet GSAP, mais il connaît déjà WebGL, en fait. Et donc, quand on était encore sur GSAP, on se disait, ah, il y aura des bouts qu'il faudra faire avec WebGL. Et lui, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement fort dans son domaine. Et donc, il vient avec cette solution dans sa mallette, solution que personne d'autre en interne ne connaissait avant qu'il arrive. Et donc, c'est vraiment, en fait, un langage qui est beaucoup utilisé dans les mondes de l'animation, des sites événementiels, etc. Donc, en fait, elle sort de notre chapeau, mais en fait, elle arrive avec Maxime, qui est une super recrue et qui apporte cette solution à la boîte.
Du coup, là, à ce moment-là, vous avez votre produit PlayPlay Podcast, donc on est en septembre 2020, qui fonctionne sur GSAP, mais vous vous dites, OK, c'est pas la techno d'avenir, on pense que la techno d'avenir, c'est WebGL. C'est quoi votre action juste derrière ?
Bah, l'action, c'est de rester sur notre poisson pilote. Donc, en fait, on va faire une migration dans la migration et on va migrer podcast de GSAP à WebGL. On est très confiant sur WebGL, mais on a quand même un petit peu envie de se rassurer 100% avant de, encore une fois, travailler sur notre produit cœur. Et donc, la fin de l'année 2020, c'est de dire on met podcast sur la techno finale. WebGL, on le lance, pour le coup on a fait un lancement un peu marketing auprès de tous nos utilisateurs, etc. pour aussi avoir du volume d'usage et de voir ce qui se passait. Et en fait, à la fin de l'année 2020, on a fini PlayPlay Podcast, la techno nous plaît, c'est stable, ça performe bien, la qualité des vidéos est canon, et en fait on a trouvé quoi.
Et du coup on attaque le chapitre 3 de l'aventure de la migration technique de PlayPlay.
Donc là, on revient de vacances, on est en janvier 2021, et en fait, maintenant, faut attaquer la migration, finalement. Jusqu'ici, c'était de la R&D, et là, on doit migrer notre produit cœur de After Effects à WebGL. Bon, là, on est un peu en mode junkie de la delivery, c'est-à-dire que c'est un peu bête et méchant, on a 70 templates qui sont codés en After Effects, c'est des dizaines de milliers de lignes de code, et il faut tout recoder en WebGL.
Et vous commencez comment ? Vous vous dites, on fait quoi au début, quand t'as cette montagne devant toi ?
En fait, on met en place une stratégie de lancement, et on se fixe des objectifs un peu intermédiaires. Parce que moi, je sais que quand on attaque 2021, ça va nous occuper toute l'année. On le dit pas forcément à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui naïvement pensent qu'en 3 mois, ça sera fini. Et donc, on se dit, il faut qu'on lance le produit en prod le plus tôt possible, parce que on est très content de podcast. Malgré tout, le producteur va tester la techno à une autre échelle. Et donc, moi, je veux me rassurer en disant, on a des utilisateurs sur le producteur qui tournent le plus tôt possible. Donc, on se dit, en fait, on va le faire en trois étapes. La première étape, ça va être de construire, en fait, le MVP de notre producteur, qu'on va donner à nos nouveaux utilisateurs. Parce qu'on a des utilisateurs qui créent des comptes tous les jours, des comptes gratuits. Et donc, eux, ils ne connaissent pas le PlayPlay avec ses 70 templates. Donc, on va définir un MVP. En fait, on a défini 30 templates de MVP. Et quand on aura ces 30 templates, les nouveaux utilisateurs qui créeront un compte, ils n'arriveront pas sur le PlayPlay After Effects, mais ils arriveront sur le PlayPlay WebGL. Et ça, ça nous donne en fait une première ligne d'arrivée qu'on met début du deuxième trimestre. Donc, on est en janvier, on se dit c'est parti pour 4 mois. Mais déjà, ce n'est pas un horizon trop lointain, quoi. Et ensuite, on se dit, on s'occupera de migrer nos 1500, enfin nos 1000 à l'époque, clients existants de l'ancienne version à la nouvelle version.
Ce qui évite un effet tunnel trop long également.
Exactement. Là, on recrute des freelances. On a pourtant l'équipe produit et tech, elle a grossi. Malgré tout, on recrute plein de freelances, spécialistes du coup WebGL, qui vont nous aider à migrer ces templates. Ça, c'est pour la partie migration technique. En parallèle de ça, on a un vrai enjeu produit et expérience utilisateur. Parce que là, on est en train de dire qu'on va faire une migration technique. Les anciennes vidéos ne seront pas compatibles avec les nouvelles vidéos, donc on va quand même créer une énorme friction utilisateur. Et il va falloir faire passer la pilule. Et la pilule de la performance, c'est pas suffisant. Donc on dit, il faut qu'en parallèle de cette migration technique, on mette en œuvre les premières features qui vont être débloquées par WebGL et qu'on apporte dans cette nouvelle version un package quand même un peu sympa à nos utilisateurs et qu'on puisse leur raconter une belle histoire. Et du coup, on dit qu'il y aura la performance et il y aura tout un axe autour de la flexibilité et de la créativité qui n'était pas possible quand on avait After Effects, mais qu'on va mettre en place et on va créer ces features produits en parallèle de la migration technique.
Avant qu'on développe plus sur la manière dont vous avez déployé sur les clients existants, donc ceux qui payaient, j'aimerais bien que tu me racontes du coup l'épopée des 4 premiers mois, en tout cas ce que vous aviez prévu pour 4 mois, pour sortir les 30 nouveaux templates et puis proposer cette fonctionnalité pour les clients free en fait, qui découvrent le produit PlayPlay. Comment ça s'est passé, quel a été, est-ce que vous avez déjà récupéré du feedback à ce moment-là?
En fait là c'est assez fluide, on est hyper focus. Toute la boîte est mobilisée derrière ce sujet-là, donc on avance sprint par sprint, démo par démo. On prend assez peu de retard parce que les gros risques technologiques, on les avait levés en fait en 2020. Donc on est vraiment en mode faut dépiler, donc on a des plannings et on est juste hyper rigoureux en fait. Et c'est vraiment la qualité de l'exécution de l'équipe qui fait qu'on lance. On avait dit le 11 mai. Finalement, c'est rassurant, ils utilisent les 30 templates, ils sont contents, on n'a pas une perte de taux de closing, entre guillemets. En fait, après, une fois qu'on a lancé ça, on est rassuré. Et on se dit, bon, bah, maintenant, il faut passer de 30 à 70 templates. Parce que pour le coup, on avait décidé qu'on ne voulait pas migrer nos clients existants tant qu'ils ne retrouvaient pas le même nombre de templates et les mêmes templates. Parce que c'est quand même le cœur de l'expérience PlayPlay. Et donc, il fallait qu'on aille au bout de la migration des 70 écrans avant de pouvoir commencer à migrer nos utilisateurs.
Donc là, je tiens à dire que Pauline parle du 11 mai 2021 sans aucune note. Donc, c'est une date qui est ancrée dans sa tête. Et donc là, on est le 12 mai 2021. Vous vous dites il faut attaquer maintenant la migration des gens qui nous rapportent de l'argent, finalement, ceux qui payent. Vous avez devant vous plusieurs défis. C'est quoi les défis à ce moment-là que vous avez en tête et comment vous vous dites que vous allez les adresser?
Bah, on a le défi de terminer la migration des templates. Donc là, en fait, on reste en mode planning, rigueur, sprint par sprint, etc. Et le deuxième défi, c'est d'avoir cette stratégie de migration de nos utilisateurs. C'est qu'est-ce que tu racontes à tes utilisateurs? Comment tu les passes de l'ancienne version à la nouvelle version, sachant qu'il y a cette cassure de compatibilité qui est une friction énorme pour eux. Et donc là, on travaille beaucoup avec l'équipe Customer Success et on décide de faire des batchs. Donc on dit, on va les faire par batch. Déjà, on va faire un premier batch un peu de test. Donc là, on n'est pas dans l'alpha ou le bêta test, on est dans la séquence d'après, mais bon, on n'arrête pas les tests. Et on va faire ça, on va tester la com, on va tester les webinars qu'on va mettre en place. En fait, on va tester tout ce qu'il y a autour de l'annonce de la migration. Et après, on fera des batchs de 200 ou 300 et on enchaînera. Donc là, on est sur un petit nuage. Enfin, un petit nuage, c'est dur. Les équipes, elles bossent dur. Mais on y voit clair, on est content, ça tient la route. On est en mai, on est en juin. Ça va être l'été. C'est bien, tu vois, on est content. Et là, on fait un batch de test de 100 clients. Donc, on a pris représentatif de tous nos clients en juin 2021. Donc, il y a des utilisateurs qui utilisent le nouveau produit depuis déjà 6 semaines et tout va bien, pas d'alerte. Donc, on est ultra confiant sur ce batch de test. Et en fait, on fait batch de test et là, catastrophe. En fait, on se rend compte que le son et la vidéo sont décalés.
Donc là, ça s'annonce, ça va être l'été de la souffrance.
Là, c'est l'été compliqué, parce qu'on était hyper confiants. On pensait avoir tout testé et tout bien fait pour ne pas se retrouver face à cette situation. Et on a un énorme bug bloquant, qu'on n'avait pas découvert avec nos utilisateurs avant, parce qu'ils avaient un usage de la plateforme qui était moins poussé. Et en fait, nos utilisateurs qui payent, c'est des pros de PlayPlay, donc ils font des choses que les autres ne faisaient pas. Là, t'es début juillet, t'as tout ton plan de migration qui est prêt, tout le monde dans les starting blocks, t'as quand même tous les commerciaux et tous les account managers qui sont hyper supportifs, mais à un moment donné, ils ont envie qu'on lance le produit parce que ça fait 9 mois qu'ils le vendent aux prospects et aux clients. Donc t'es quand même pas méga serein, on va pas se mentir. Heureusement, on a des gens fantastiques chez PlayPlay, on a mis en fait nos meilleurs éléments et ils ont bossé tout l'été sur ce fichu bug. Et je pense qu'on a trouvé la solution au 10 août quoi. Donc en plus t'as quand même des gens qui partent en vacances, donc t'as la passation de connaissances, on en est où, etc. Ça a quand même été un été assez marrant, mais quand tout le monde revient de vacances, le bug est résolu et on est sorti de ce gros brouillard quoi.
Alors, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que c'est une question que je pose, c'est comment est-ce que vous gérez les clients existants et la précédente version de PlayPlay, est-ce que vous continuez à la mettre à jour? Est-ce que vous continuez à l'alimenter à nouvelles fonctionnalités? Ou vous attendez justement, parce que plus vous en mettez dans l'ancienne version, plus il faudra les migrer. Donc, quelle est votre stratégie en la matière?
Alors, on a une stratégie un peu hybride, c'est-à-dire que sur le cœur produit d'édition de vidéos, effectivement, tout est en pause depuis un bout de temps. Et donc, ça commence à être difficile dans la gestion des clients. Honnêtement, on a quand même une équipe Customer Success qui a fait des miracles. Parce que pendant un an, il n'y a aucun template qui est sorti, pas de nouvelles fonctionnalités, ça commence à tendre un peu. Après, on avait quand même gardé une équipe produit qui travaillait du coup sur des fonctionnalités en dehors de l'édition, donc des fonctionnalités de collaboration, de gestion des vidéos, etc. Donc on avait quand même quelques petites nouveautés qui sortaient pendant ce temps-là. Malgré tout, il y avait une... Oui, il commençait à y avoir des clients qui disaient « Mais elle va sortir quand cette version ? Elle va sortir quand cette version ?» Et en septembre, il fallait qu'on y aille, quoi.
Donc, le 10 août, vous savez que, a priori, vous avez la solution. Qu'est-ce qui se met en place, là ? Vous dites, on va rattraper le plan.
Là, on se repose calmement. C'est quand même un enjeu énorme pour la boîte, donc pas de précipitation. On refait un nouveau plan de batch avec les Customer Success. Donc, on fait un planning. Le premier batch part le 5 septembre, le deuxième batch 2 semaines plus tard. Eux, ils font les groupes de clients qu'on va migrer, ils remettent en place toute la com. En fait, à partir de là, c'est plus serein, mais c'est juste pas de précipitation. En fait, le mot d'ordre, c'est on a 1000 clients à migrer, c'est hyper risqué, on fait les choses bien. Et là, on a en fait 3 mois de migration, batch par batch, avec des traitements spéciaux pour les clients spéciaux et énorme travail de l'équipe Customer Success parce qu'il faut qu'ils fassent le service après-vente de cette migration, client par client, point par point, webinar par webinar, etc.
Est-ce que tu peux revenir justement sur cette stratégie par batch, est très commune pour la migration technique, mais comment vous avez pris ces décisions et d'un point de vue stratégique et qu'est-ce qui s'est justifié derrière?
En fait, il y avait deux options. Soit tu fais tout d'un coup, t'appuies sur un bouton un matin et tu pries, soit t'y vas progressivement. Et en fait, malgré tout, encore une fois, ce qu'on fait, personne ne l'a fait avant. Donc, d'un point de vue technique, on a dit non, on va pas appuyer sur un bouton, on va y aller progressivement. Et on avait aussi, malgré tout, envie de tester la réponse de nos clients à cette non-compatibilité. Parce que si d'un coup, on avait la moitié de nos utilisateurs qui disaient non, puisque c'est ça, moi je m'en vais. bon, je ne sais pas ce qu'on aurait fait en fait, mais on avait envie de tester ça.
Oui, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est ce que tu disais au début, c'est que les vidéos que les gens avaient construites avec l'ancienne version sur After Effects, finalement, ne pouvaient pas éditer ou modifier ces vidéos-là avec la nouvelle version que vous veniez de sortir, vous étiez en train de déployer avec WebGL.
Exactement.
Donc, ils y avaient accès, mais ils ne pouvaient plus y toucher.
Ils pouvaient y toucher pendant un certain temps. Mais il savait qu'en fait, c'était ce projet vidéo-là, il avait une date d'expiration, en fait. Et donc, on lance les batchs. Et en fait, on est quand même rassurés très tôt parce que très peu d'utilisateurs se plaignent de cette non-compatibilité. Ils sont contents des nouveautés produits qu'on a sorties avec cette version. Donc, ils sont tout excités des trucs qu'ils attendaient, etc. Les performances sont meilleures. Et donc, en fait, ils ont un retour extrêmement positif. Ils accueillent, en fait, cette nouvelle version de manière extrêmement positive. Et donc, toutes les craintes qu'on avait sur les clients vont râler, ça va être hyper dur, on va devoir refaire des vidéos, etc., en fait, disparaissent très rapidement.
Parce que vous aviez imaginé le cas où il faudrait que vous refassiez, vous, les vidéos pour les clients avec la nouvelle techno.
Oui. Ben, on s'était dit, pour certains clients, peut-être qu'on en arrivera là. Et donc, on retroussera nos manches et on refera les vidéos une à une, les vidéos les plus importantes, une à une, sachant qu'on potentiellement, c'était des centaines ou des milliers de vidéos, quoi. Et comme on n'avait pas de solution technique, pour ne pas perdre des clients, on était prêt à faire beaucoup de choses manuelles. Ouais.
Et le côté product marketing, comment vous l'avez géré, justement, cette migration d'un point de vue utilisateur? Est-ce que tu te rappelles un peu des... Tu parlais de webinaires, j'imagine. Enfin, quelle est la com qui s'est faite autour de ça, autant dans le produit que hors produit?
Alors, à l'époque, on n'avait pas d'équipe product marketing, donc on a fait ça de manière très artisanale. On a décidé de ne pas vraiment parler de cette nouvelle version auprès du monde extérieur, parce qu'en fait, on n'avait pas envie d'entrer dans les détails techniques, et les gains de performance et de fonctionnalité, c'était des choses que surtout nos utilisateurs pouvaient comprendre, en fait. Donc, on décide qu'on ne l'annonce pas vraiment à la terre entière et qu'on se concentre sur la com auprès de nos utilisateurs. Donc là, on fait une petite vidéo, on fait des newsletters, on fait des webinars, on met à jour toute la FAQ. Et puis surtout, nous, on est quand même sur du high touch, c'est-à-dire qu'on a des clients qui payent des licences assez chères, qui ont donc un account manager ou un CSM dédié. Et donc, en fait, ils enchaînent les points, en fait, pour des points migration avec nos clients, pour leur expliquer comment ça va se passer, etc. Et en fait, ils avaient préparé déjà les clients depuis 6 mois, tous les points qu'ils avaient depuis, en fait, on va dire mi-2021 avec nos clients, ils annonçaient cette migration, ils la présentaient de manière extrêmement positive, ils parlaient du fait que les deux solutions ne seraient pas compatibles, etc. Donc il y avait un travail immense de cette équipe de préparation de nos utilisateurs, préparation mentale, et après d'accompagnement. Et donc en fait, le résultat, c'est qu'on n'a perdu aucun client. Sur nos 1000 clients qu'on a fait passer de l'ancienne version à la nouvelle version, on a perdu 0 client. Donc ça, c'est vraiment le succès du produit, mais surtout de l'équipe Customer Success.
Justement, est-ce que tu peux nous situer la place du produit dans cette migration-là? Toi, quel était ton rôle et ton équipe? Vous étiez concentré sur quoi précisément?
Nous, on a eu un rôle dans la partie expérience utilisateur et sur ces fameuses fonctionnalités qu'on a débloquées. Ça, c'était bien sûr, on était au cœur de ça. Ensuite, on a eu un rôle... de travail avec les équipes Customer Success, de travailler la com avec eux, en fait tout ce qu'est l'aspect un peu product marketing pour nos clients. Et après, moi, mon rôle, ça a été un rôle de dynamic booster, quoi. C'est-à-dire, c'est dur, en fait, ce qu'on a fait. Ça a duré 2 ans. Les équipes, à la fin, c'était difficile, en fait. Donc moi, mon rôle, c'était de garder le focus des équipes, de faire en sorte que... Tout le monde avait envie de faire plein de features, du coup, mais de faire en sorte qu'on reste focus sur la migration... de communiquer sur cette migration en interne, d'envoyer des paillettes à tout le monde, de générer de l'excitation, de faire en sorte que ça soit célébré. Enfin, j'avais vraiment un peu ce rôle de géo, en fait, dans la migration, qui est un rôle qui me va assez bien. Et donc, j'ai pris ce rôle et je pense que c'est vraiment ça qu'il fallait faire parce que c'était malgré tout une migration très technique. Donc, les équipes techniques étaient dans le dur, concentrées là-dessus. Et moi, j'ai fait en sorte que la communication et l'énergie se passent bien, quoi, globalement.
Pendant des années, vous avez créé sur l'ancienne version, le legacy, comme on l'appelle. Qu'est-ce qui devient? Vous le débranchez? Comment ça se passe? Raconte-nous un peu comment vous enterrez cette vieille version.
Bah déjà, le 4 février 2022, on l'a débranché officiellement. Donc un projet qui avait commencé fin 2019, La migration s'est vraiment terminée le 4 février 2022. Plus aucun utilisateur n'avait accès à l'ancienne version. Donc là, ça a été soulagement, célébration, etc.
Champagne.
Champagne, ouais, entre autres. Et bah, maintenant, il faut, bah, faut effectivement, en fait, quelque chose que t'as pas du tout envie de faire après avoir fait une telle migration, c'est ce qu'on appelle le projet Kill V2, en fait, Kill de l'ancienne version. Et donc là, il faut se lancer dans des gros projets de refacto. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc on s'est donné 6 mois, donc le deuxième trimestre et le troisième trimestre de cette année, pour complètement retirer ce code. Donc ça a été découpé en petits bouts qu'on répartit dans toutes les squads. Et le succès de cette migration, il sera vraiment complet quand on aura fini de retirer ce vieux code legacy qui ralentit forcément plein d'autres développements et l'onboarding des nouveaux, etc.
Justement, pour des personnes qui sont novices dans le produit, est-ce que tu peux expliquer la raison de faire ce travail de refacto?
Bon, les techs l'expliqueront mieux que moi, mais en fait, c'est juste que du coup, tu as plein de lignes de code dans ton application qui servent à rien. Ça peut ralentir l'application en fait, tout simplement déjà. Et ensuite, ça ralentit vachement tout ce qui est débugage, tout ce qui est onboarding des nouveaux. Quand tu as des nouveaux développeurs ou développeuses qui arrivent et qui doivent appréhender ton code, si tu as plein de lignes de code mortes dans tous les coins, et là on parle de beaucoup de lignes de code, ça rend les équipes totalement inefficaces.
Je pense qu'on va partir sur le chapitre 4 épilogue, non?
C'est le bon moment, je pense. Donc Pauline, on sent qu'on arrive au bout de l'histoire. Tu nous as même déjà un peu raconté ce que vous alliez faire dans les prochaines semaines. Est-ce que tu peux nous faire une rapide conclusion sur finalement tout ce que ça vous a apporté d'investir tout ce temps, toute cette énergie pendant 2 ans pour PlayPlay, pour vous, pour l'équipe?
On est hyper content de l'avoir fait. Déjà, on a une techno open source qui n'appartient pas à quelqu'un d'autre, qui est très scalable. Et qui attire des super talents. Donc, d'un point de vue tech, c'est un énorme succès. D'un point de vue produit, on est très content parce que du coup, on n'a plus de limitations techniques. C'est-à-dire qu'on peut être très créatif dans ce qu'on veut faire. Et aujourd'hui, on n'a plus de. Ah bah non, ça, on ne peut pas le faire à cause d'After Effects. Donc, du coup, on a des roadmaps produits très ambitieuses, qui sont hyper excitantes. Et puis d'un point de vue utilisateur, c'est aussi un grand succès parce qu'en fait, on a eu notre plus gros score de Net Promoter Score en février avec un score de 70. Donc ça prouve que tout ce travail qu'on a fait, il a servi la tech, il a servi le produit, mais il a aussi un impact immédiat sur nos utilisateurs et donc sur le succès de notre business.
Pour terminer, toi, très personnellement, Pauline, tu as quelques enseignements, les choses que tu aimerais nous raconter sur ce que ça t'a appris et ces 2 années de travail chez PlayPlay?
Bah, c'est des enseignements qui viennent à la fois de cette migration et des autres que j'ai vécues, puisque c'était ma 4e migration dans ma carrière. Il y en a 2 qui se sont pas bien passées et 2 qui ont réussi, donc je suis 50-50. Je pense que ce qui nous a vraiment sauvés dans cette migration, c'est l'idée d'avoir ce produit pilote et de pouvoir tester ces nouvelles technos sans du tout menacer le produit cœur et la valeur de notre business. Donc ça, c'est pas toujours possible. Mais si c'est possible, en fait... Même si à la fin, podcast, on l'a débranché et on ne l'a pas gardé pour plein de raisons, c'était la meilleure idée qu'on ait pu avoir dans l'approche de cette migration. Et la deuxième idée qu'on a eue, c'était aussi de surtout pas mêler un risque technique et un risque produit. Donc on aurait pu dire, comme on fait une migration, on rechange des choses dans l'expérience utilisateur. Et en fait, on a volontairement décidé de ne rien changer dans l'expérience utilisateur, à part ajouter quelques fonctionnalités. Ce qui fait que nos utilisateurs, ils n'étaient pas du tout perdus quand ils sont arrivés sur cette nouvelle version. Il s'est passé comme une lettre à la poste. Ils se sont retrouvés exactement la même expérience. Et donc, on n'avait pas de peur de drop d'usage, etc., que tu peux avoir. Notamment quand j'avais fait des migrations sur des marketplaces et tu changes l'UX de ton funnel de conversion, tu mets ton business à risque aussi, juste parce que tu peux perdre de la conversion et des achats. Donc là, c'était vraiment 2 choix, le projet pilote et le fait de ne pas changer l'expérience utilisateur, qui ont fait qu'on a eu peur plein de fois, mais il y avait aussi plein de trucs qui ne nous faisaient pas peur. Après, l'enseignement que j'ai, c'est que une migration, ça prend globalement au moins 2 fois plus de temps que ce à quoi tu t'attends. Ça, c'est vrai sur les 4 migrations que j'ai pu vivre. Et celle-ci n'a pas été une exception. Donc, il faut juste, quand il va, déjà, il ne faut pas y aller à la légère. Il faut y aller pour les bonnes raisons. Et puis, il faut aussi gérer tes parties prenantes. Donc, nous, en l'occurrence, notre CEO, forcément, et puis les autres équipes, hein, encore une fois, les équipes commerciales et Customer Success, et être toujours très, très, très vague sur les dates, et pas s'engager coûte que coûte sur des dates. Et le dernier enseignement, c'est qu'en fait, une migration technique, ça pourrait être assez ingrat pour les équipes produits. Et en fait, moi, ma façon de le vivre, c'est d'être 100% dans cette migration. Et de respirer migration, d'en faire mon objectif principal, de mettre toute mon énergie et du coup d'embarquer toute mon équipe produit dans cette énergie migration et d'être là quoi, et de pas dire il y a les techs qui font la migration d'un côté et les produits ont fait de la discovery et d'autres trucs de l'autre. Non, on était une équipe et on a marché tous ensemble dans la même direction dans cette aventure.
Du coup, ce que tu viens de nous dire, Pauline, c'est que le sujet d'une migration technique, c'était pas un sujet de tech. Et ça, je trouve ça super intéressant. Tu peux nous dire quelle doit être la position d'un product manager pour toi dans le cadre d'une migration tech?
En fait, il faut vraiment s'approprier le sujet comme n'importe quel autre sujet de la roadmap. Et donc, ça veut dire qu'il faut que le produit, il aille dans le détail de ce qui est en train de se passer d'un point de vue technique et qu'il fasse l'effort de comprendre ce qu'on est en train de faire, de comprendre la nouvelle architecture qu'on est en train d'écrire, de comprendre les nouveaux tuyaux et comment est-ce qu'on va les brancher. Et d'être au front, en fait. Il faut être au front, ticket par ticket, sprint par sprint, recette par recette, au quotidien. Il ne faut pas que ça soit la tech qui fasse 6 mois de migration et le produit qui fasse 6 mois de recette. C'est juste quotidien, au quotidien, ticket par ticket, juste être une équipe, en fait.
Et tu disais à l'instant que tu étais à 50% de migration réussie et 50% de migration loupée. Tu saurais dire aujourd'hui... Pourquoi ça a loupé dans les 50%?
Oui, la première, c'était une migration qui allait aussi avec un rebranding, un changement du coup d'expérience produit justement sur une marketplace. Et en fait, on a lancé le nouveau site sur une nouvelle tech, responsive, etc. C'était génial. Sauf qu'en fait, ça n'a jamais aussi bien performé que l'ancien site. Il y avait des enjeux de SEO aussi, et du coup du fait que le legacy apportait beaucoup de trafic. Mais donc, globalement, risque produit, risque technique, rien n'a pris. Et là, c'était 2 ans de travail jeté à la poubelle, pour le coup. Donc, ça, c'est la première qui était ratée, du coup. Et la troisième, qui s'est pas très bien passée, c'est justement le cas où la tech, on a géré ça comme un projet technique. La tech est partie toute seule dans sa migration. Et le produit, on ne les a pas du tout challengés. Et en fait, ils ont pris des mauvaises décisions qui avaient un impact négatif sur l'expérience utilisateur qu'on n'avait pas compris. Et une fois qu'on a... Donc, ils sont allés au bout de la migration. Et après la migration, il a fallu 6 mois pour recoller les morceaux et retrouver une expérience utilisateur qui était cohérente à la fois pour nos utilisateurs internes et nos utilisateurs externes. Donc ça a été une migration qui finalement pour moi a été ratée aussi parce qu'on a passé 6 mois après à prendre des seaux d'eau et à vider la barque quoi.
Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de Epic. Merci Pauline.
Merci Tanguy, merci Kevin de m'avoir invitée. Je suis une admiratrice du ticket depuis ses premiers jours et donc j'espère que ce podcast aura une très longue vie.
On espère aussi.
On espère.
Bonne journée à tout le monde, à bientôt. C'était Epic, le podcast aventureux du Product Management.
Produit par le ticket.
Et maintenant, tu peux t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes.
Et on n'est pas là pour te dicter ta vie, mais tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. C'est toujours sympa et ça nous aide à le faire connaître.
Allez, on se retrouve très vite pour la suite.
D'ici là, prends soin de toi.
T'es encore là? Bon, ouais, ça tombe bien, on a oublié de te dire un truc. Si t'as aimé cet épisode, tu peux aussi t'abonner au Média Le Ticket. C'est une newsletter envoyée tous les 15 jours et ça parle de product management. Mais en pas trop chiant quand même. Enfin, on essaye.
Bon, par contre, là, faut vraiment y aller maintenant.